Voici le sommaire de ce journal.
Antoine Tchouf.
Les victimes de déguerpissement de Mbambilor entendent faire face à ce qu'elles appellent les vautours fonciers. Cela même au prix de leur vie, leurs maisons et vergers ont été démolis. Au nom de la paix civile au Sénégal, les organisations de la société civile ont demandé au président Abdoulaye Wade de retirer sa candidature à la présidentielle de 2012. En outre, ces organisations sont déterminées à participer à tous les combats citoyens pour la défense de la Constitution. Grève de la faim des ex-travailleurs de la société ICOTAF, les épouses et enfants des grévistes ont décidé de rejoindre le mouvement. Les plages dakaroises tuent déjà en ce début d'hivernage. 22 cas de décès ont été enregistrés. Nous reviendrons largement sur le sujet dans le focus du jour à suivre la page des sports, la chronique politique de Mamoudou Ibrakane, sociétale avec Sornana Tamba et puis la presse. Bienvenue à toutes et à tous. Pas question de renoncer à la lutte pour retrouver leur maison et verger. Les victimes de Mbambilor, dont les biens ont été démolis, se sont attaquées en assemblée générale à ce qu'ils considèrent comme étant des vautours fonciers. Ils entendent se battre au prix de leur vie. Jean Maron.
Des agents immobiliers, des personnalités proches du pouvoir, des religieux tous au banc des accusés.
Mais nous avons appris incidemment par des personnes qui sont au niveau du service des domaines de Rufisque que qu'on nous proposerait de quitter les lieux pour nous transférer à Lumkagne. C'est ridicule. Alors si ça ne se règle pas, mais nous utiliserons tous les moyens de lutte. Nous n'excluons aucun moyen de lutte. J'ai dit que des gens étaient prêts à offrir leur poitrine au bal des militaires. Et je suis sûr que des gens le feront.
Ils auraient bénéficié de terrains en Mbambilor au détriment des propriétaires de vergers, de maisons et de terrains. Mam Koumba Diop dit avoir investi près de 100 millions en Mbambilor pour avoir un terrain. Un terrain qu'elle risque de perdre.
Suite à l'appel du président Wad demandant aux jeunes surtout d'investir dans la terre, j'ai pris toutes mes économies pour acquérir un terrain qui m'a été vendu légalement avec un titre donc de délibération signé du sous-préfet et du président de la communauté rurale. J'ai investi des centaines de millions dans l'aviculture, le maraîchage et l'arboriculture. Donc suite à ce grand scandale foncier, je risque de perdre tout mon investissement.
Des avocats déjà saisis, les victimes des de tout simplement de porter plainte contre les destructeurs des maisons, de vergers et de champs en Mbambilor. Professeur Issalo, porte-parole du collectif de sept villages de Mbambilor.
Nous avons décidé de porter plainte.
Porter plainte contre qui ?
Contre la Comico. Parce que la Comico, en utilisant les moyens de l'armée sénégalaise, avec les moyens humains et les moyens matériels de l'armée, a détruit 400 habitations et 65 vergers. Et ces personnes sont aujourd'hui dans la rue. Donc nous allons porter plainte pour destruction de biens.
Au total, ce sont 2500 hectares de terrain qui font courir les promoteurs et autres personnalités à Mbambilor.
Jo Maron, la présidente du mouvement Car Lenen, présente à l'Assemblée des populations de Mbambilor, met en garde le président de la République, Amsa Toussaint Sidibé, d'y craindre un avenir catastrophique. Si le problème n'est pas réglé, elle est au micro de notre reporter Jo Maron.
On est en train de poser régulièrement les actes qui vont faire éclore un conflit grave au Sénégal. Si nous n'y prenons garde, à tous les niveaux, au plan politique, la démocratie est en train d'être écrasée. La question foncière, qui est une question grave, parce qu'à l'origine de guerres civiles dans beaucoup de pays, eh bien cette question foncière est actuellement très mal gérée. Je me pose des questions sur la gouvernance au Sénégal. Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une sorte de sabotage. Moi, j'ai le sentiment que le pouvoir aujourd'hui veut nous laisser un pays qui est dans le chaos. Parce que je ne peux pas comprendre cette provocation tous azimuts. Il faut qu'on fasse attention. Le problème foncier à Mbale, à Mbambilor et ailleurs, ça risque de mettre sur nos mains d'autres casamances. Nous n'en avons pas besoin. Je lance un appel au pouvoir et au président de la République pour qu'il surveille les actes qui sont posés par le gouvernement, par les acteurs du régime. Il faut qu'il les surveille pour que le Sénégal ne bascule pas dans la violence.
Toujours dans l'actualité sociale, la grève des ex-travailleurs de SRG Icotaf se poursuit au 11e jour. Les épouses et les enfants des grévistes de la faim ont décidé de suivre le mot d'ordre. Les 443 travailleurs de l'ex-Icotaf réclament 900 millions de francs CFA en guise d'indemnité après la liquidation de cette société.
RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance.
L'actualité politique à 7h, 6 minutes, le retrait de la candidature d'Abdoulaye Wade pour préserver la paix civile au Sénégal. C'est la volonté des organisations de la société civile. À côté de ces organisations, il y a également les religieux et tous se disent prêts à participer à tous les combats citoyens pour la défense de la Constitution. Alousse Inouyane.
Les acteurs de la société civile réaffirment leur engagement pour la défense de la Constitution. Ils vont continuer le combat dans l'indépendance vis-à-vis de l'État et des partis politiques. Abdou Mazid Ndiaye, président du Forum des organisations volontaires africaines de développement.
Dans l'opération « Touche pas à ma Constitution », elle a eu besoin de se retrouver et de réorienter son action, tout en restant dans le mouvement du 23 juin. Continuer à garder son orientation à elle.
Abdou Mazid Ndiaye et ses camarades prendront part à toutes les luttes pour le respect des droits citoyens. Selon eux, cette action va au-delà de 2012 et nécessite un cadre organisationnel. Sidi Ndiaye, de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal.
Un cadre organisationnel commun et autonome regroupant toutes les organisations de la société civile avec un système de coordination nationale et de démembrement dans tous les départements du Sénégal.
Des ONG, des chefs religieux musulmans et du clergé catholique, des organisations syndicales, patronales et de travailleurs qui ont signé la déclaration demandent au président Wade de reconsidérer sa candidature à la présidentielle de 2012.
Avant qu'on en arrive là, nous disons que Wade devrait regarder la situation du pays, regarder les dangers que sa candidature fait courir au pays et réévaluer sa candidature pour un troisième mandat.
Les participants ont condamné les violences faites à Aliountine et à tous les leaders de la société civile. Ils invitent les acteurs politiques à œuvrer pour des élections libres, transparentes et sincères.
Et Benon Siguil Sénégal promet d'examiner avec ses avocats la possibilité de traduire en justice Karim Wade pour haute trahison. L'opposition dénonce l'appel du ministre d'État, fils du président Wade, à Robert Bourgi pour une intervention de l'armée française lors des émeutes du 23 juin dernier. Le porte-parole du jour, El Hadj Mouar Sam, au téléphone d'El Hadj Alassane Samadio.
Nous avons estimé, dans la réaction que nous avons faite, qu'il y avait là un appel à des forces étrangères pour venir intervenir sur notre territoire. Mais ça, c'est extrêmement grave. A priori, nous disons que ça, c'est une trahison par rapport à la nation. C'est une attitude traîtresse. La deuxième chose, nous allons nous appuyer donc sur un pôle d'avocats pour étudier la question et voir effectivement les possibilités que nous donne la loi pour pouvoir le traduire en justice s'il y a lieu. C'est ça que nous avons exactement dit, parce que nous estimons que la situation est extrêmement grave. Cette attitude est irresponsable et irrecevable. Et nous avons dit, au plan politique, non seulement nous dénonçons ça, mais nous exigeons la démission de Karim Wade de toutes ses fonctions étatiques.
Sur quel article du code pénal vous appuyez-vous pour porter cette plainte?
Nous ne sommes pas encore appuyés sur le code pénal. On dit simplement, sans aller plus loin, en attendant de regarder ça de près, nous allons convoquer notre pôle d'avocats pour regarder la question. Maintenant, c'est en regardant les questions que nous pourrons peut-être identifier les articles qui sont les plus probants par rapport à cette situation-là, à traduire justement cette situation au plan juridique.
L'avocat Ali Fall souligne que l'article 56 du code pénal et la plupart des articles d'ailleurs parlent d'intention, alors que d'après les dires de Robert Bourgi, Karim Wade a réagi dans une situation de panique. Voici Maître Ali Fall.
En principe, l'article 56 du Code pénal est contenu dans le chapitre des crimes et délits contre la chose publique et notamment contre la sûreté de l'État. Je pense que si c'était pas cet article-là qu'on veut viser, il ne me semble pas, à mon avis, applicable. Pour la bonne et simple raison que cet article, dans les différents alinéas, requiert quand même un élément intentionnel pour la commission des diverses infractions visées. Or, telles que les choses nous ont été présentées, en tout cas par Robert Bourgi, que j'ai écouté sur votre antenne hier, j'ai plus le sentiment que M. Karim Wade aurait réagi par rapport à un événement, plus qu'il n'a conçu exécuter quelque chose de structuré en intelligence avec une puissance étrangère. Parce que tel que le code pénal définit l'article 56, je pense que cet article-là requiert nécessairement l'application d'un élément moral, donc intentionnel. Je ne pense pas que dans les faits qui nous ont été rapportés, il y ait un élément intentionnel pour faire en sorte qu'une puissance étrangère s'attaque aux intérêts
de l'appel de Karim Wada, Robert Bourgi. C'était bien dans le cadre des émeutes de l'électricité le 27 juin dernier. Il est 7h10, vous suivez le journal sur la radio Futur Média.
Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité.
RFM, partout, tout le temps.
Nous entamons le focus du jour. Les plages font des victimes en ce début d'hivernage. 22 personnes sont déjà mortes par noyade rien qu'au mois de juin. 148 cas de décès ont été recensés sur nos plages l'année dernière. Le point de la situation avec El Hadj Ndiogoudiene.
Chaque année, de nombreuses personnes perdent la vie en se baignant à la plage. Et les chiffres sont effarants. 148 morts par noyade ont été enregistrés en 2010. Une baisse par rapport à l'année précédente où 195 individus avaient laissé leur vie sur les plages. L'été vient à peine de commencer et déjà 22 morts ont été recensés le mois dernier. Les plages les plus meurtrières sont la plage de Malibu à Amogéjouaï, la plage de Tiaroï, la plage de Malika et la plage de Mbaoua. Ces noyades sont dues au fait que les populations ne respectent pas les consignes et se baignent sur les plages interdites. Dans le lot des plages interdites à la baignade figurent Soumedioune, Almadi 1, Mamel, Université, Mermoz, Le Virage, Institut Pasteur, mais aussi les plages de Guédiouaï, Parcelle Assini et Malika. En revanche, pour ce qui est des plages autorisées, on peut citer Cambérène, Teroubaï Sogui, Anse Bernard et la plage de Ngor, entre autres. En cette période estivale, la vigilance sur les plages s'impose donc pour éviter que ces lieux de détente ne deviennent des lieux de mort.
À refus qu'un seul point de baignade sur les 9 existants est autorisé, les populations se disent conscientes du danger, mais se baignent au niveau des plages interdites quand même, comme celle de Bata. Refus qu'au Sénoutiam.
Nous sommes à la plage de Bata, l'un des 9 points de baignade qui existent à Rufisque. Sur place, certains viennent pour prendre l'air, mais d'autres pour se baigner. Parmi les baigneurs essentiellement composés de petits garçons âgés entre 8 et 12 ans, ils ne savent même pas que cette plage n'est pas autorisée pour le baignade.
Oui, c'est pour se baigner.
Pour se baigner.
Oui.
Est-ce que vous savez que cette plage n'est pas autorisée?
Non, nous ne savons pas. C'est pas sûr, c'est sûr.
C'est risqué?
Oui.
Essayez ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a des maîtres nageurs ici?
Non, il n'y a pas de maîtres nageurs.
Du côté des autorités municipales, elles se disent conscientes des risques encourus, surtout avec le manque d'effectifs du ministère de l'Intérieur qui doit surveiller ces plages interdites.
Il n'y a pas assez d'effectifs aussi, parce que là, ça revient au ministère de l'Intérieur pour surveiller les plages interdites. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas assez d'effectifs pour mettre en place des équipes en permanence pour surveiller ça. Donc nous, en tant que collectivité locale, puisque les gens fréquentent ces plages-là, ben nous, on est obligés de mettre des équipes de sauveteurs.
Pour le moment, un seul cas de noyade a été enregistré à Rufisque malgré l'objectif 0 cas que s'est fixé les autorités. Ousseynou Ndiam, Rufisque RFM.
La plage de Guédiouaï fait partie de celles interdites, mais les baigneurs la fréquentent au prix de leur vie et cette plage a déjà enregistré 4 cas de décès par noyade. La mairie de la ville de Guédiouaï tarde à sécuriser les lieux. Détail Salif Sow.
Plage de Guédiouaï, 17h, l'heure du grand rush. Certains jouent au football, d'autres quittent la mer après quelques minutes de baignade. C'est le cas de Ngwene Ndiaye et de ses deux copines.
Nous sommes en période de tangaï, il fait très chaud. Raison pour laquelle moi, t'as pas nous.
Pourtant, la baignade est formellement interdite ici.
Mais tu sais, ici, c'est à Guédiouaï. Ici, c'est le banlieusard.
Est-ce que c'est une raison?
Oui, les filles t'as mis tout prêt.
Les baigneurs bravent l'interdiction. Les conséquences sont énormes. 4 morts par noyade, ou même plus, sont déjà recensés. En ce début de vacances, nous renseignons un groupe d'adolescents, des garçons et des filles fraîchement sortis de l'eau.
Wow.
Les surveillants de plage et les maîtres nageurs brillent par leur absence. La La mairie de Guédiawaye n'a pris aucune disposition pour lutter contre ces nombreux cas de noyade. La sécurisation des plages n'est pas encore prise en charge par la commune.
Et puis l'État a signé un protocole d'accord avec les collectivités locales. C'est pour la surveillance des plages. La révélation est du chargé de communication du groupement national des sapeurs-pompiers. Le colonel Abdoulaye Ndiaye indique que des mesures de prévention sont mises en œuvre pour renforcer la surveillance des plages. Il est joint par Elhaj Ndiogoudien.
Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, ministère de la Jeunesse et l'Association des maires du Sénégal donc avaient arrêté entre eux un protocole d'accord de partenariat portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation. Alors, donc, ce protocole donc prévoit en fait toutes les mesures qu'il faut prendre donc pour réduire en fait tous ces cas de décès. Nous participons également à la surveillance des plages. Alors, c'est ainsi que nous prépositionnons à partir du mois de juin déjà, des moyens sur certains lieux de baignade, tels que la plage d'Ongor, la plage de Cameroun, la plage des enfants, entre autres. Et ceci se fait tous les jours de midi à 19h. Et dans les autres plages, ce sont les collectivités locales, notamment la mairie de Dakar, qui prend en charge la surveillance. En plus de ça, il y a également les policiers et les gendarmes qui font le tour, notamment sur les plages interdites, pour interdire la fréquentation, et également sur toutes les autres plages pour interdire la fréquentation après les heures autorisées, notamment au-delà de 19h.
L'actualité internationale.
Côte d'Ivoire, un ancien rebelle à la tête de l'armée. Il s'agit du général Soumaïla Bakayoko. Il est nommé chef d'état-major général des armées ivoiriennes par le président Alassane Ouattara. Le nouveau patron des armées ivoiriennes dirigeait l'armée des forces nouvelles. Affaire Dominique Troscan, l'avocat de Nafissatou Diallo, Kenneth Johnson, bénéficie du soutien de quelques membres de la communauté africaine malgré les présumés mensonges de celles qui accuse l'ancien patron du FMI de viol. Il réclame que DSK soit jugé. Le procureur, quant à lui, poursuit ses investigations. Bonjour, Malal Junior Diagne.
Bonjour, Antoine.
Vous nous présentez la page des sports.
On va démarrer avec du football, avec cette dernière rencontre, comptant pour la 20e journée qui a eu lieu hier. Niaritali a partagé les points avec le Casasport, score nul et vierge. C'était au stade Demba Diop, une rencontre qui s'est déroulée devant un public nombreux. Après la fin, le coach de Niaritali, Samba Keita, s'est dit satisfait du point du nul obtenu par ses joueurs. Samba Keita est au micro de Georges Desi Diop.
C'est un très bon match nul. Maintenant, on aurait souhaité gagner, mais je pense que c'est un championnat. Prendre un point, c'est pas mauvais. Maintenant, à la lecture du match, je pense que globalement, on a dominé le Casa. Globalement, on méritait plus de gagner, mais comme le Casa aussi traversait des difficultés, ils sont venus chercher un point. Mais je pense que c'est un nul équitable. Mais dans l'ensemble, on a posé le jeu, on a joué, on a gêné le Casa. On a travaillé toute la semaine sur le pressing. Pressing haut avec cadrage du porteur du ballon. Je pense que ça a payé. Maintenant, ce qui a manqué un peu, c'est le but. Mais je pense que dans l'ensemble, on est satisfait du déroulement du match.
On est satisfait du déroulement du match du côté Casacé. L'équipe enchaîne son cinquième match sans victoire. Mais pour Demba Ramatanga, le coach, il faut juste continuer le travail. Puisque les joueurs ont le talent, il faut juste faire des ateliers afin qu'ils puissent être plus efficaces devant le but. Demba Ramatanga est coach du Casa Sport.
C'est très bien, c'est à l'instar d'un chasseur qui va en brousse. Il faut qu'il revienne à la maison avec un gibier. S'il amène un éléphant, c'est la victoire. S'il prend une antilope, c'est le match nul. Mais un pigeon, un match nul. Mais il faut amener le gibier à la maison. Nous ne sommes pas rentrés brûlés, on amène un pigeon à la maison, c'est bon, on ne cache pas là-dessus. L'adversaire a été à l'aise parce qu'on leur a dit que bon, ils sont grande taille, mettez le ballon à terre et jouez. Bon, à un moment donné aussi, ils ont essayé de balancer les balles et on les a demandé de passer sur les flancs. Chaque fois qu'on passe sur les flancs, la défense adverse écarte. Ils l'ont fait plusieurs fois, mais c'est au finish, la dernière passe, ils jouent le football de l'âge. Là, ça ne pardonne pas. On n'a pas été efficace dans le dernier tiers à la dernière passe. On éclate la défense adverse, on plonge dans la surface de réparation, il y a une routine de taux, une pousse de taux. Même dans les contres qu'on avait, il y a une
portrait de balle abusive qui fait que Yaya n'a pas donné cette balle de but, Hansen n'a pas donné cette balle de but. Dans ces cascades de contre-performance, si l'adversaire nous avait imposé son jeu, nous avait dominé du cap à la cheville, on peut dire que notre adversaire peut faire ça. Mais si c'est des buts pris à défense individuelle, un défenseur qui veut dribbler, ou bien quelqu'un qui garde, ou bien quelqu'un qui s'enflamme, là, la rectification est facile. Tous les buts qu'on prend, jamais l'adversaire ne prend son ballon, l'élabore de sa base, les articles de notre défense est marqué. C'est sur des défenses individuelles créables qu'on prend des buts. Et là, c'est facile à jouer.
Par football, toujours, on a également hier procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec comme affiche la Lingère de Saint-Louis qui va jouer contre Thiès Football Club. Touré Kounda Diarra, c'est l'affiche phare de ces quarts de finale. Le vainqueur de la rencontre, Niar Italie Renaissance, aura comme adversaire Ndiambour. Et enfin, la Espikine qui va se frotter à l'équipe du Duc. Parlons de basketball pour terminer avec les Lions qui sont toujours bloqués à Dakar. Ils sont à peu près 9 Lions sénégalais. Ils n'ont pas encore reçu leur visa pour se rendre en France où a lieu le camp d'entraînement. Rappelons que l'équipe nationale du Sénégal prépare l'afro-basket prévu au mois d'août prochain à Madagascar. Les Lions visent le titre de champion d'Afrique dans ces championnats. Antoine Diouf.
Merci Malal Junior Diagne pour cette page des sports.
RFM, la chronique du jour.
La chronique politique du vendredi, signée Mahmoud Ibrakane, Alain Juppé d'un côté, Robert Bourgi de l'autre. L'un incarne la diplomatie officielle de la France, l'autre sa diplomatie partielle, relève dans une belle formule un confrère basé à Dakar, un confrère français donc basé à Dakar. Deux sorties quasi simultanées contre les Ouad père et fils et riches en enseignements. Une réflexion de Mahmoud Ibrakane.
Je ne sais pas si c'est nous qui l'avons convaincu ou les manifestations de rue. C'est le chef de la diplomatie française qui parle ainsi des circonstances de retrait du projet de réforme constitutionnelle du président Ouad lors de la fameuse journée du 23 juin. Non, monsieur Juppé, surtout pas cette pantalonnade, pour ne pas dire cette jupette diplomatique. Il doit être clair pour tous que c'est bien ce que vous appelez manifestation de rue, telle une prise de la Bastille à la sénégalaise qui a eu raison du projet de loi Morné. Nul n'a le droit de voler à un peuple même anciennement colonisé sa victoire. Et franchement, monsieur Juppé, sur ce coup raté du chef de l'État sénégalais, la France n'a fait que suivre la direction du vent. La voix de Paris n'a pas été plus audible que celle de l'Union européenne, encore moins celle des États-Unis ou encore celle de tous ceux qui étaient épris de voir la démocratie sénégalaise saine et sauve. Cependant, la sortie diplomatiquement fracassante d'Alain Juppé a quelque chose de bien positif pour la suite des événements. Les déclarations considérées dans leur globalité du ministre des Affaires étrangères français à l'occasion d'une audition à l'Assemblée nationale ont le mérite d'être claires. Le pouvoir de Sarkozy recadre ainsi ses relations depuis quelque temps troubles avec le régime de Ouad. L'allusion au voyage de Benghazi du chef de l'État sénégalais, disant les yeux dans les yeux ou les yeux dans la caméra au guide libyen Kadhafi, plus tôt tu partiras, mieux ça vaudra. Cette allusion à peine voilée est un message tout aussi clair. Applique-toi ta propre leçon. C'est ce qu'on appelle un beau lâchage au milieu du guet. La France ou la France-Afrique et les Ouad du Sénégal et patatras. Tout se gâte, tout se casse. On n'avait pas fini de commenter Alain Juppé que Robert Bourgi enfonce le clou, non le coup. Quelle belle synchronisation, quelle belle symphonie entre diplomatie officielle et diplomatie parallèle. Sûrement pas un hasard diplomatique. Sur les ondes de Radio Futur Média en plein Takusan, tel l'appel du Mieuxin, l'avocat d'affaires Bourgi et tonton de Karim Ouad confirme le coup de fil de minuit du fils du président de la République demandant le secours de l'armée française contre les émeutiers du 27 juin. La révélation est tellement grave que de simples dénégations de ce coup de téléphone à une heure de crime n'apaisent personne quant au positionnement du ministre d'État Karim Ouad dans notre République et notre État. Sous ce régime fièrement installé par tout un peuple le 19 mars, les démentis aveux sont honteusement devenus monnaie courante. Les démentis sont si nombreux qu'on en rit partout. Karim Ouad et Robert Bourgi, il était une fois un tonton et son neveu sous une république évoluant en marge de toutes les républiques. Elle s'appelle France-Afrique. Il est temps de remettre notre république à l'endroit.
Alain Juppé dans la diplomatie officielle et Robert Bourgi dans la diplomatie parallèle ont tous parlé du Sénégal à leur façon. Il est 7h25.
RFM, sociétal.
Sociétal aujourd'hui sur les mauvaises odeurs en période de chaleur. Un constat, il est impossible de respirer dans les transports en commun ou autres espaces publics. Les garçons et les filles s'accusent et tous conviennent qu'il est difficile de s'y habituer. Sornana Tambay.
C'est la période de canicule. Bonjour les mauvaises odeurs. Tout le monde se plaint, et les filles en particulier.
Ils dégagent des odeurs et ils ne le savent même pas. Dans les cars, dans les bus, dans les classes. Parfois ils ont les odeurs de bouche, le corps et tout ça.
Les aisselles, la bouche, les cheveux, le corps en général. Toutes ces parties sont des nids de mauvaises senteurs. Et ne pointer du doigt que les garçons ou que les filles serait une erreur.
La mauvaise odeur me dérange, surtout en période de chaleur, avec les sueurs et tout ça, tout se mêle. Ceux qui ne se baignent pas. Parfois les garçons disent que ce sont les filles, parfois les filles disent que ce sont les garçons. Mais on dirait que c'est tous les deux, les filles avec le greffage et tout ça, les garçons. Bon, avec leur chemise.
Une belle coiffure, des vêtements chics et un beau maquillage. Rien n'est fait. Pas question de se laisser duper par les filles.
Surtout avec leur déodorant là. Tu vois une fille qui passe toute la journée sans se laver. Parce qu'ils pensent qu'avec leur déodorant, à chaque instant avec leur déodorant, ils peuvent dégager vraiment une bonne odeur. Alors que c'est pas ça. Parce que par exemple, s'il y a la sueur par-ci par-là, et tu mets à chaque instant à prendre. À un moment donné, même on ne sait pas, même le déodorant va changer de nature, ça va se dénaturer même.
Fatou se défend, s'il y a des personnes qui les étouffent dans les bus ou dans les espaces publics, ce sont bien les garçons.
Moi je dis qu'ils disent n'importe quoi, parce que les filles prennent soin. Oui, il y a des filles qui prennent soin d'elles, qui se lavent chaque matin, qui prennent soin de leur greffage. Je pense que si les garçons disent ça, ils disent du n'importe quoi. C'est au contraire eux qui ne prennent pas soin d'eux. Parce que je viens juste là d'une chambre d'un garçon, je ne pouvais même pas respirer là-dedans.
Que ce soit sa coiffure ou son corps, Anta en prend soin pour éviter de se faire pointer du doigt dans la rue.
Pour les greffages, je me coiffe presque durant toutes les deux semaines en m'occupant de moi très bien et tout, en utilisant des pompes pour greffage et tout, en évitant les mauvaises odeurs.
Quand il fait chaud, c'est tout à fait normal de suer un peu et de dégager une odeur qui fait fuir. Ce jeune homme avoue, tout simplement.
Mais parfois, à un moment de la journée, nous tous, nous souffrons de ça. C'est normal, mais on doit vivre avec. C'est naturel.
Donc, c'est seulement à certaines heures de la journée. Apparemment, cet étudiant n'est pas d'accord. Pour lui, c'est une question d'hygiène.
Oui, gourmand, j'ai dit. C'est la question de Djikola. Mon beau judo, c'est Yaro 7.
Alors, un petit conseil ne leur ferait pas de mal.
Si tu as beaucoup utilisé, si ça est ça pas content, beaucoup aussi de d'être do am qui do dégage chaleur, do am khat. Do aussi lu bah la, do transpirer.
Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures, vous offre la revue de presse.